Pour ce soir, j'aimerais vous proposer une méditation d'un psaume. Vous savez, sans doute, et je l'écris de temps en temps dans l'éditorial, le livre des psaumes est le plus lu des livres bibliques depuis tous les temps, de toutes les générations. Et il est aussi beaucoup lu par des personnes qui ne professent pas forcément la foi comme nous l'entendons, nous, et qui retrouvent dans ce livre quelque chose, des échos, des enseignements qui peuvent totalement s'approprier à leur situation. Parce que le livre des psaumes, et vous le savez aussi, exprime justement tous les sentiments, ou en tout cas une grande panoplie de sentiments humains, que ce soit dans les plus beaux comme dans les plus noirs. C'est vraiment un livre qui nous parle de l'humain que nous sommes. Et il n'y a pas très longtemps, dans un accompagnement que je faisais avec une personne, on partageait, et puis à un moment donné, dans la discussion, me racontait quelque chose, et puis je lui ai dit, mais tu sais, ça fait partie de l'acceptation de l'humain en nous. On est obligé d'accepter que nous sommes humains. Et jamais la prière sera accessible, jamais une prière vis-à-vis de Dieu où on va lui demander, Seigneur, fais que je ne sois pas humain, fais que je ne sois pas vulnérable. Cette prière-là n'est pas une prière, parce que Dieu nous a voulu humains. Et dans ce livre des psaumes, on retrouve tous ces sentiments, toutes ces situations, ces circonstances de l'humain. En outre, les psaumes ont été beaucoup utilisés dans des circonstances très particulières, notamment lors de l'esclavage. Lors de l'esclavage, dans les champs de coton, alors que là s'exprimait une grande souffrance, les Noirs américains chantaient et célébraient ces psaumes d'une manière que nous connaissons aujourd'hui sous forme de chants, les gospels ou les Negro spirituals, que j'affectionne tout particulièrement d'ailleurs. Et c'est vraiment d'une grande puissance. Et encore aujourd'hui, quand on entend des concerts de gospel, il y en a beaucoup en ce moment, c'est Noël, donc c'est vraiment très fort. Les camisards en France aussi, lors de la persécution des Cévennes, ont beaucoup chanté, beaucoup récité les psaumes. C'était vraiment une véritable source d'inspiration. Et puis, plus proche de nous, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive beaucoup d'écrire mes propres psaumes, comme je dis. Alors, je ne les publie pas encore. Mais ces sentiments qu'on peut mettre, qu'on peut dire, qu'on peut écrire, j'aime bien écrire ces choses parfois qui peuvent être innommables parfois. On ne peut pas même les prononcer. Beaucoup de ces poèmes, psaumes, poèmes, c'est un peu le même mot, sont, ou inspirent du moins, inspirent même souvent le silence. Ils inspirent quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Et dans notre époque très technicienne, nous n'y échappons pas. Et ce n'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais elle est très technicienne, notre époque, où le bruit a beaucoup de place, beaucoup de remplissage se fait. Je crois que l'approche des psaumes nous permet de prendre ce recul. Parfois, en tout cas moi, c'est ce que ça fait. Ça me permet, ça m'offre un espace. Ça m'offre un espace de réflexion, un espace de méditation, un espace peut-être pour être dans un autre lien, dans une autre relation. C'est souvent un langage pacifiant qu'on y trouve, un langage fécond qui porte du fruit. Mais ce n'est certainement pas un langage intellectuel. Au moment où on approche un psaume de manière intellectuelle, il meurt, parce qu'il s'agit de l'humain. Non pas qu'on doit enlever notre intelligence, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas d'une manière intellectuelle qu'on pourra approcher ce poème-là. Il traverse toutes les classes sociales, nous le voyons bien dans les psaumes, du berger au grand roi. Et il traverse aussi tous les âges. Bien qu'ils aient plus de 1000 ans, ils sont toujours actuels. Parce que l'être humain, il ne change pas. Peut-être les circonstances changent. Nous avons découvert toute cette technicité, toutes ces choses connectées, soit. Mais en tant qu'être humain, certainement, on ressent les mêmes choses. On a les mêmes tristesses, les mêmes troubles, les mêmes épreuves. Et donc, ça nous rejoint même 1000 ans plus tard. Et c'est absolument extraordinaire. Alors ce soir, j'aimerais vous proposer un bout de psaume. J'aimerais vous le lire et que vous l'écoutiez, tout simplement. Que vous l'écoutiez en résonance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va donner un écho. au plus profond de votre cœur. Ça peut être un mot, ça peut être juste un petit verset, un petit bout, quelque chose. En écoutant, entendez cette résonance. Entendons ensemble ce que l'Esprit veut déjà, dès le départ, juste à la lecture de ces paroles, nous donner. Et ce sera peut-être une perle que vous pourrez déjà emporter pour vous-même, à méditer dans les jours qui viennent lors de vos méditations personnelles. Mais entendons-le de cette manière-là. Je vous invite à prier. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous guider, de nous inspirer, de nous faire découvrir des chemins qui mènent à la vie de Dieu. Nous voulons ouvrir notre cœur. Nous voulons ouvrir ce temps à la présence de Dieu. Nous voulons ouvrir notre terre intérieure à la visite de Jésus et permettre véritablement que le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, puisse circuler en toute liberté, en toute ouverture, et de nous parler vérité, celle qui vient de Dieu. Psaume de David. J'ai jeté l'ancre vers le Seigneur. À lui, de tout mon cœur, je me suis attendu. Il s'est penché vers moi. Il a perçu mon cri. Il m'a répondu. Oui, Dieu m'a repêché des tourbillons du gouffre, où mon cœur se noyait, de la vase, de la boue, où ma vie s'enlisait. Il m'a fait remonter, il m'a remis debout, les pieds sur le rocher. Et il me réapprend à marcher sans tomber. Il fait chanter en moi un recommencement qui crie « Merci, mon Dieu !» Bien des gens le verront et ils seront remplis de respect pour ce Dieu et compteront sur lui. Heureux tout être humain qui, pour devenir fort, met en lui sa confiance. Au lieu de rechercher l'appui de la violence, des marchands d'illusions et de belles promesses. Mon Seigneur et mon Dieu, qu'ils sont grands et nombreux les projets que tu as faits pour nous. Ton génie est unique pour mettre tout en place. Je voudrais l'annoncer, je voudrais le raconter à tous, mais il y en a trop. Ce que tu veux n'est ni sacrifice, ni offrande, non. Mais tu m'as donné des oreilles pour entendre. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime pour le prix de ton pardon. Alors j'ai dit, c'est moi qui viens avec toute ma personne et avec le rouleau du livre écrit pour moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté, à faire tes délices. Et ton enseignement que tu m'indiques est là, au fond de moi, au centre même de mon être, au cœur de mes entrailles. Amen. J'aimerais vous préciser que la version que je viens de lire, en fait, est une version traduite directement de l'hébreu par une professeure qui enseignait, maintenant elle est à la retraite, à l'université de Lausanne. Elle enseignait l'hébreu, elle parle couramment l'hébreu, et à Jérusalem également. Une femme qui aime profondément le Seigneur et qui a eu à cœur de reprendre quelques-uns des psaumes, pas tous, et qui les a remis dans le langage, et nous le savons que l'hébreu est très imagé, très riche dans la signification qu'elle propose vraiment pour toute une réflexion. Et il s'agit du psaume 40, pour ceux qui voudront le reprendre. La version la plus proche, c'est peut-être la Tob, la 70 aussi, qui se rapproche de ce texte-là. Ce psaume 40, il fait partie en fait d'un ensemble de psaumes. Vous savez que dans les célébrations des frères juifs, c'est très important de réciter les psaumes, par exemple à Shabbat, ou lors de fêtes très spécifiques, comme Shavuot, les cabanes, la fête des cabanes, Kippour, le grand pardon, etc. Ils ont l'habitude, depuis tout petit, de réciter par cœur, souvent, tous ces psaumes. Et ces psaumes, ces quatre psaumes, font partie d'un même répertoire, ce qu'ils appellent un même répertoire. Donc il y a le 38, 39, 40 et 41. Alors dans nos Bibles, des fois, ils ne sont pas coupés de la même manière. Malheureusement, c'est ça qui nous trompe un tout petit peu. Mais ça fait partie de ces psaumes qu'eux, ils appellent les psaumes de douleur ou parfois même les psaumes de pénitence. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite parce que lorsqu'on lit le psaume 38 et le psaume 39, il y a une grande douleur qui est exprimée, une immense souffrance qui est exprimée. Ils sont attribués à David, on n'est pas toujours sûr que ce soit David, hein, mais peu importe, c'est un humain, c'est quelqu'un qui va exprimer cette souffrance. Et le 40 que je viens de vous lire, en tout cas en partie, est là au milieu, comme une oasis au milieu de toute cette mare de souffrance. Au milieu de toute cette douleur, il y a ce psaume 40 qui ressort. Et ça, ça montre bien aussi nos vies. Lorsque, souvent, au milieu de choses difficiles, pénibles, souffrantes, il y a comme un souffle, comme quelque chose venu d'ailleurs, de Dieu qui nous traverse. Et on ne sait pas. Je suis sûre que vous avez déjà dû expérimenter ça. Comme quelque chose qui, tout d'un coup, qui nous saisit, sans même peut-être avoir fait quoi que ce soit, justement, et qui saisit notre cœur, là, au milieu même d'une très grande douleur. En tout cas, je peux le témoigner. Je peux témoigner pour avoir été, comme chacun ici, dans de très grandes souffrances. Perte, deuil, terrible. Et là, il y a quelque chose d'ailleurs qui traverse et qui nous rencontre. Eh bien, ce psaume 40 nous parle aussi de ça. Au milieu d'une mare et de tout ce qui peut se passer, Dieu veille, Dieu envoie, Dieu pourvoit. Dieu répond. Dieu répond sans même avoir encore fait quoi que ce soit. C'est un petit peu de ça. Le psalmiste ensuite commence en disant « J'ai attendu ». J'ai attendu. Il n'attend pas une solution. Il n'attend pas même une bénédiction. Ce serait légitime. Il n'attend pas un miracle. C'est très particulier ce « j'ai attendu ». J'ai attendu le Seigneur lui-même. Et cette forme-là, dans ce psaume-là, en hébreu, c'est une forme très spécifique, très particulière et très forte. On la trouve dans trois psaumes. Le 25, le 40 et le 130. Et c'est vraiment, j'ai attendu de tout mon cœur, je m'attends au Seigneur dans sa personne. C'est ça qu'il est en train de dire, très très fort. Et des profondeurs de son vécu, de ce vécu-là, il va pouvoir dire, non pas comme une recette, non pas même comme une doctrine ou comme une espèce d'équation en disant, vous voyez, si je fais ça, il y a ça qui arrive. Ça, ce serait un petit peu ce que nous avons tous un peu tendance humainement de faire. Non, mais vraiment du très fond de son vécu, il va pouvoir dire, et comme on le sait, c'est une forme au présent, et en hébreu, c'est très spécifique ces formes-là dans le verbe, c'est « il m'a fait remonter, il m'a mis debout ». Il l'est déjà. Mais vous savez quoi ? La situation n'avait encore pas changé. Mais il va pouvoir le dire, il m'a fait remonter, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose que j'espère même, c'est quelque chose de fait. C'est quelque chose que lui peut témoigner, peut le dire, peut l'attester, comme un témoin au tribunal, c'est les mêmes formes. Après avoir exprimé son cri, et là aussi, ce cri qui peut autant vouloir dire le cri silencieux de l'âme, ce cri qu'on ne peut même plus dire, même plus exprimer, tellement il est profond, douloureux, jusqu'au hurlement qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Tout est accueilli. Dieu, il n'est pas offensable de nos cris. Nous, oui, ça peut nous heurter parfois. On peut être dérangé, on peut être dans notre humanité, voilà, nous avons nos limites. Mais Dieu, il n'est pas offensable. Ton cri, quel qu'il soit, silencieux ou hurlé, il va l'accueillir. Il ne le censure jamais. Il n'y a aucun cri dans la Bible d'aucun humain qui a crié à Dieu qui a été censuré, quel qu'il soit. Même les cris les plus noirs de colère, comme ceux de Job, en lisant le livre de Job, des fois on peut être surpris. C'est très paradoxal des fois le langage des psaumes. Hein. On peut être surpris de ces cris qu'il avait envers Dieu en disant mais tu ne peux pas me laisser comme ça, et maudissait le jour de sa naissance. Enfin, on connaît cette douleur, cette souffrance extrême qui le faisait crier. Rien n'a été censuré par Dieu, rien. À la fin du livre de Job, on entend Dieu parler de Job en disant « Mon serviteur a bien parlé ». Et ce que Dieu censure, c'est de passer à l'acte. Comme dans le cas de Caïn, par exemple. Caïn est dans la colère, à tort ou à raison, hein, on ne va pas lui faire son procès, Dieu ne l'a pas fait. Donc, il est dans une colère. Dieu le voit, c'est dans la Genèse, hein, tout au début. Puis il dit, mais Caïn, pourquoi ton visage est affaissé? Ça veut dire, pourquoi tu es en colère, dans le langage judaïque. Et puis, Caïn peut même pas répondre, il peut pas. Il garde son cri pour lui. Et en le gardant pour lui, il va tuer son frère. Ça va jusque-là. Mais le cri exprimé, aussi terrible soit-il, il est accueilli. Et on peut s'imaginer que si Caïn avait pu crier sa colère à Dieu, Dieu l'aurait accueilli. Comme il peut accueillir toutes les colères, toutes nos colères, quelles qu'elles soient, toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient, il peut tout entendre. En tant qu'être humain, moi je ne peux peut-être pas tout entendre, je ne peux pas tout comprendre, de loin je ne peux pas tout comprendre, mais je sais que Dieu peut. Et c'est à partir de là que David, le psalmiste, l'auteur de ce psaume en tout cas, va crier. Prier, ce n'est pas se mettre en condition pour Dieu. Ah, quand je vais mieux, je vais commencer à prier. Ou s'endimancher, se mettre dans un certain état d'esprit. Non, prier, c'est partir de là où j'en suis aujourd'hui et maintenant. C'est partir de là. Si je suis dans la souffrance, je peux prier. Si je suis dans la joie, je peux prier. Si je suis dans l'exaltation, je peux prier. Si je suis dans l'incompréhension, je peux prier. Là où j'en suis, sans rien mettre dans une espèce de forme. Dieu, il n'a pas besoin de ça. C'est nous qui en avons besoin. Prier, c'est un « me voici » devant Dieu. Un « me voici » qui l'accueille. Seigneur, me voici. Et c'est ce qu'on voit dans la progression de ce psaume, c'est que assez rapidement, on entend, au verset 4, il fait chanter en moi un recommencement. Alors qu'il est dans une grande souffrance, puisqu'il crie, hein, c'est bien noté, hein, il crie, il fait chanter en moi un recommencement. Pourtant, de nouveau, la situation extérieure n'a pas encore changé. Mais c'est le priant qui a changé. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on exprime dans la prière, ou lorsqu'on exprime les uns aux autres devant Dieu. Ça peut être aussi ça, Dieu nous met en lien les uns avec les autres. Eh bien, il se passe une ouverture. On ne reste pas replié sur soi-même. C'est ça le danger, ce qui s'est passé avec Caïn. C'est qu'il est resté plié sur lui-même, dans la fermeture. Or, lorsqu'on commence à prier, lorsqu'on commence à crier, notre souffrance... Eh bien, il y a une ouverture qui s'opère. Il y a quelque chose qui s'ouvre, aussi petit et minime soit-il, aussi minable nous sentons-nous parfois, aussi misérable dans notre souffrance. Et il y a une petite ouverture qui se fait. Et lorsqu'il y a une ouverture, le Saint-Esprit arrive. C'est là, aussi petite l'ouverture soit-elle, là il s'engouffre, j'ai envie de dire. J'aime bien ce mot, moi. Il s'engouffre, il se met, parce que l'Esprit souffle où il veut, quand il veut, partout où il peut. Et d'ailleurs, le psalmiste le relève en disant, pour tous les êtres humains, même pas réservé à quelques-uns, pas même, c'est pas seulement pour les juifs ou seulement pour les chrétiens ou tel et tel, pour tous les êtres humains, dès qu'il y a cette ouverture, ce lien, quelque chose du lien qui est une ouverture, eh bien le Saint-Esprit vient. L'Esprit Saint souffle et peut atteindre le cœur. C'est ça qui se passe dans la réalité. Dieu, nous le savons, on ne peut pas l'expliquer. On peut le vivre un peu. Il faut rester humble. Il est totalement autre. Il n'est pas comme nous. Il est tout autre. Et pourtant, il va venir jusque dans la boue, jusque dans la crèche, dans quelques jours. Nous pourrons encore en parler, peut-être. Il va venir jusque-là. Et en même temps, Dieu, qui est tout-puissant, omniscient, nous le savons, dans tous les attributs de Dieu, il a une limite. Oui, c'est notre fermeture. Jamais, jamais, il n'enfoncera une porte fermée. Jamais. Il a trop de respect. Trop de respect. Une porte fermée, elles sont toutes possibles à ouvrir. Hein. Il n'y en a aucune qui est impossible à ouvrir. Mais une porte fermée, puisqu'il dit « je frappe ». Pourquoi est-ce qu'il n'entre pas sans frapper ? Jamais il le fera. Mais dès que l'ouverture se fait, même si c'est tout petit peu, vous savez, avec la chaîne comme on a maintenant, hein, pour voir au travers qui c'est qui est là, eh bien, le Saint-Esprit peut venir et peut agir. Ce champ de recommencement dont il est question dans ce texte, dans ce poème, chose très étonnante, ou peut-être pas même, c'est que ce n'est pas quelque chose que le psalmiste dit « Ah ben oui, j'avais prié, donc c'est bien normal que je le reçoive. » Ce n'est pas quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ou bien de dire « Ah ben j'ai tout bien fait, donc c'est normal que maintenant je m'en sorte. » C'est hors du mérite. C'est hors de tout cela parce qu'il m'est donné, dit le psalmiste. Ce n'est pas quelque chose que je crée. Ce n'est pas quelque chose que je peux, moi, faire. Mais il m'est donné. Je n'ai qu'à l'accueillir. Je peux seulement l'accueillir. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que ça donne la place à tout le monde. Ça donne à tout le monde cette possibilité d'avoir ce champ du recommencement. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire quelque chose pour l'avoir. L'ouverture, l'Esprit Saint qui souffle, me donne ce champ nouveau. Et la clé, c'est, juste au verset d'après, où de nouveau le psalmiste va dire « Heureux tout être humain qui, pour devenir fort, donc pour pouvoir chanter ce chant, il fait quoi ? Il met sa confiance en lui. » Et vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, mais moi ça me frappe, mais il y a un paradoxe. Pour être fort, il faut mettre sa confiance. Je trouve que ça ne va pas ensemble. Pour être fort dans notre monde, c'est il faut y aller. Il faut faire des choses. Là, mettre sa confiance, ça veut dire laisse aller, lâche, lâche. Ça veut dire ça. Donc, pour être fort, il faut laisser aller. Il faut lâcher. Il faut laisser faire. Il faut laisser être. C'est ça qu'il est en train de dire. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est dit à des enfants en disant, tu sais, il n'y a qu'à, il faut que... Tu fais comme ci, comme ça, et puis ça ira. C'est véritablement une recommandation, comme disent nos frères juifs, une recommandation de Dieu à l'humain dans sa maturité. Parce que le mot utilisé là, tout être humain, veut dire l'homme fait. C'est vraiment une recommandation. Il dit, mais laisse aller et fais confiance. Confiance, évidemment, parlons de notre foi. Parce que confiance et foi, c'est le même mot. Surtout en grec, c'est pistis, hein. C'est le même mot. En mettant cette foi, en laissant aller, eh bien, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté, qui est de l'ordre du paradoxe si on va selon les critères humains. Et cette découverte, c'est une découverte que le psalmiste fait à ce moment-là, une grande découverte, au point que pour lui, de la manière dont il le dit, mais quelle révélation! Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit là, enfin, comme c'est traduit là. Il dit, ton génie, Seigneur, est unique pour mettre tout en place. Au fond, ce qu'il est en train de dire, mais t'es génial! Mais c'est super! Comme il le dit, je trouve, avec nos mots d'aujourd'hui. T'es génial! Tu sais tout mettre en place sans que je puisse, moi, trouver des choses à faire. Ton génie me dépasse! Mais j'y avais pas pensé du tout. Je ne pouvais pas, puisque les voies du Seigneur sont autres. Tu es absolument hors de tout ce que moi je peux faire, m'imaginer. Ça vous arrive certainement, ou alors je suis la seule, qu'après des heures et des heures de rumination, et de trouver et de chercher des solutions et de chercher des stratégies et de ne pas dormir. On est spécialiste. En tout cas, moi, je suis spécialiste. Et puis que peut-être épuisé, on n'en peut plus. On laisse aller. Et là, quelque chose se passe. Une intuition, une parole, un téléphone, quelqu'un, un rêve. Mais oui, la Bible est pleine des rêves que Dieu donne. Eh bien, c'est là, c'est dans ce lâcher de la confiance que les choses arrivent. C'est ce qu'expérimente exactement l'auteur de ce psaume. C'est pour ça qu'il peut tellement nous rejoindre, comme toute la parole nous rejoint dans cette dimension-là. Et cette révélation m'était géniale. Cette intuition, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis ce rêve, encore moins. Et puis cette parole de ce frère, de cette sœur, ce partage, cette rencontre, etc., etc. Du moment où il y a une ouverture, tout est possible pour Dieu. Tout est possible. Et la révélation va encore plus loin parce que tout d'un coup, il y a même une remise en question, c'est-à-dire une mise en lumière, une prise de conscience en fait. Une prise de conscience. Puis il va dire, et c'est dans le contexte évidemment que David le dit, dans son contexte à lui, « Ce que tu veux n'est ni sacrifice ni offrande, tu ne demandes pas holocauste ni victime. » Alors évidemment, dans son contexte, on sait très très bien de quoi on parlait. Il y avait tous ces sacrifices qui se faisaient au temple, mais pas seulement. Tous les peuples aux alentours avaient l'habitude de sacrifier à leur Dieu. Ce sont des termes techniques pour s'attirer les faveurs des divinités, etc. Et aujourd'hui encore, peut-être que nous en Occident, ça ne nous parle pas trop parce qu'on n'a pas des dieux au milieu de la rue, là, des statues, des choses comme ça. Mais dans certains pays, d'ailleurs vous avez vu Chennai, hein, nous quand on était à Chennai, on voyait tous ces dieux, ces autels partout où les gens viennent amener de la nourriture, se prosterner pour s'attirer les faveurs, la bénédiction et tout ça de tous ces dieux. Et là David il dit, mais ce n'est pas ça au fond que tu demandes. Et puis au milieu de ces deux phrases, il dit, mais tu me donnes des oreilles pour entendre. Puis je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi il dit ça au milieu de tout ça? Mais oui, parce que c'est la prise de conscience. J'entends ce que je dois entendre. C'est-à-dire que cette prise de conscience, c'est de dire, puisque ce n'est pas ça, et qu'il y a une remise en question, il y a autre chose à entendre. C'est ça qu'il est en train de dire. Et si nous, aujourd'hui, on ne va peut-être pas faire des sacrifices comme il le faisait avant, mais on a remplacé nos termes, tout simplement. On sacrifie volontiers... On parlait du monde du travail, hein, on le connaît tous, le monde du travail, mais la vie en général, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus de reconnaissance, toujours plus de richesse, toujours plus, toujours plus. C'est la même chose. On sacrifie famille, enfants, on sacrifie. Et parfois, ça peut même être sous des formes spirituelles, en pensant faire plaisir à Dieu. Sans parler encore de ces terribles choses qui se passent en ce moment, en faisant... soi-disant, la volonté de Dieu. Voyez, on le fait aussi. Eh bien, David, à ce moment-là, il dit, eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais alors, puisque c'est pas ça, question, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut faire? C'est un petit peu, on peut le voir un petit peu, on peut le sentir, hein, ce psalmiste qui est en dialogue avec Dieu et puis il dit, mais bon, alors, c'est pas ça. Puis alors là, il a cette pensée et puis il dit, c'est pas le sacrifice, c'est pas les holocaustes, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors je viens moi, je m'offre moi, avec tout mon être. C'est ça qu'il dit. Je viens moi, tout comme je suis, là. Je m'offre. Quel beau cadeau pour Dieu. Quel beau cadeau. Alors moi je viens avec tout mon être. Et vous avez remarqué, pas seulement dans ce psaume-là, mais pratiquement dans tous les psaumes et dans d'autres paroles qu'on peut lire, combien le corps a une place. Les pieds, les mains, les oreilles, etc. D'ailleurs, ce psaume, moi, ça fait une petite année que je le découvre, pour quelque chose de très pratique. Je me suis cassé le pied l'année passée et je suis tombée sur ce psaume. Et quand je lis, il m'a mis debout et il me réapprend à marcher sans tomber, j'ai bien écouté. C'était vraiment très concret. Et depuis une année, ensuite, je l'ai travaillé à d'autres niveaux. Mais c'est très corporel, c'est très dans le corps, c'est très ancré dans le corps. Mais oui, parce que Dieu nous parle aussi avec notre corps. C'est vrai. Même si nous sommes issus de la pensée grecque qui a évacué le corps, parce que les Grecs pensaient que le corps est un empêcheur de la spiritualité, non. Jésus, d'ailleurs, est ressuscité dans un corps transformé. mais dans un corps. Lorsque nous nous approchons de cette table le dimanche matin, c'est mon corps, dira Jésus. Et ce corps nous parle, mes amis. Il nous parle au travers de la parole, il nous parle à travers du corps. Lorsqu'il y a toutes ces tensions, lorsque ça ne va pas, posons-nous la question. Est-ce que je ne vais pas trop loin là? Est-ce que je ne suis pas un peu trop engagée? Est-ce que je ne vais pas... Peut-être que ce n'est pas de ma responsabilité. Ou peut-être ça l'est, etc. On parle tellement du stress, je sais bien, mais... Voilà, c'est peut-être quelque chose à entendre. Toutes ces choses que le corps me dit. Et vous savez, on le dit très communément maintenant, on le voit beaucoup dans les magazines. Tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer. Où? Dans le corps. Voyez? Exprimons. Disons-le. Écoutons le message de Dieu. Alors j'ai dit, verset 8, alors j'ai dit, c'est moi qui viens avec toute ma personne et avec le rouleau du livre écrit pour moi. Fort, hein? Avec le rouleau du livre, c'est-à-dire avec la parole. Nous, on dirait avec la Bible, avec le livre. Lui, il avait des rouleaux encore. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. Mais oui, cette parole, c'est comme si elle était écrite personnellement pour moi. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour tout le monde. Personnellement, ça vous est déjà arrivé, mes amis, que un passage lu et relu, entendu depuis notre enfance, entendu depuis des années, et puis que peut-être je connais par cœur, ou que j'ai l'impression de connaître par cœur du moins, tout d'un coup en le lisant, il me réapparaît comme si c'était la première fois. Comme si, waouh, j'avais jamais vu ça. Mais c'est écrit avant ou ça apparaît maintenant? C'est ça. Ce livre, il nous parle comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai proposé, entendez l'écho. Entendez, juste dans la parole lue, dans la parole dite, dans toute sa simplicité, dans tout ce qu'elle nous dit. Entendons l'écho. Parce qu'il est en train de dire là, c'est de dire, mais elle est là déjà cette parole. Il le dit dans le verset d'après. Il est là que tu as mis au fond de moi, au centre de mon être, au cœur de mes entrailles. Il faut qu'elle surgisse. Il faut que ça s'ouvre. Il faut que je l'entende. Et c'est pour ça qu'il nous donne des oreilles pour entendre. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, en venant, parce que j'entends cette parole qui fait écho en moi, je viens tout moi-même. Et en poursuivant cette révélation qu'il a et cette prière que David il a, on entend et on lit dans le verset suivant, mais au fond, ce que je suis en train de réaliser, c'est que je suis attendu. Je suis attendu par Dieu. Tu es attendu. Il est toujours et encore en train d'attendre. Il n'est jamais surpris. Je suis attendu. Je ne sais pas ce que ça peut faire dans vos cœurs comme écho, mais moi, ça me donne une espérance, une grande joie de me savoir attendu de Dieu en tout temps. Au sein de mon cri de douleur, comme de mes joies les plus profondes, je suis attendu et entendu. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais terminer pour dire encore que la fin de ce psaume est différente de ce début. Tout d'un coup, le psalmiste, de nouveau, il retourne dans les épreuves. Il dira, « Des épreuves, son nom m'environne, mon courage m'abandonne. Seigneur, sauve-moi, qu'il recule ceux qui se plaisent à mon malheur, etc. etc. » Puis on se dit, « Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il n'a pas compris ?» Pas du tout. C'est ce qui nous arrive à nous tous. C'est que mais la vie, elle est faite comme ça. Ce n'est pas une fois pour toutes. Je sors de quelque chose et puis voilà, c'est terminé pour la vie. Assurance tout risque, j'ai signé, c'est bon. Ce n'est pas comme ça. Et le message que nous pouvons entendre de choses comme ça, de revirements comme ça, c'est de dire que oui, Dieu est encore et toujours en train de recueillir, d'accueillir et d'entendre mon cri. On m'a demandé le titre de ce message tout à l'heure. Il est le Dieu de mes recommencements. Il est le Dieu de mes recommencements, au grand pluriel, il faudrait mettre même plusieurs S. Parce qu'il y en aura beaucoup des recommencements. Et c'est toujours et encore qu'il va m'accueillir. Toujours et encore qu'il va m'entendre. Toujours et encore qu'il va m'attendre. Toujours et encore qu'il va se révéler de cette parole Réma, comme pour le psalmiste, de cette parole qui suscite cet écho et qui est une révélation que personne ne peut m'enlever. Toujours et encore, de mettre ma confiance pour être fort. Et c'est ça qu'il nous dit. Amen.